BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, la vision d'un DRH ancienne génération sur la nouvelle garde de DRH qui veut changer le monde. On sera avec Philippe Vivien, ancien DRH d'Areva et DG d'Alixio. Et puis, est-ce que c'est possible de faire carrière en même temps dans un couple? C'est la question qu'on va poser à Anne-Cécile Sarfati. Elle a écrit « Nous réussirons ensemble ». C'est déjà plein d'espoir. Un nouveau label se lance sur le bien-être au travail. Est-ce qu'il y a vraiment la place sur le marché? C'est la question qu'on va poser à son fondateur Aurélien Hercule de Human. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Philippe Vivien, directeur général d'Alixio. Bonjour, Alixio.
Bonjour.
Société de conseil en stratégie sociale fondée par Raymond Soubi, ancien DRH d'Areva. Vous avez passé 27 ans dans l'énergie. J'avais envie de vous entendre sur votre vision de la nouvelle génération des DRH. On reçoit toutes les générations sur ce plateau. Il semble qu'il y ait une nouvelle génération dans les scale-up, dans les start-up de gens qui ont envie de changer le monde, qui travaillent ensemble. Quel est votre regard sur ces nouveaux DRH ?
Premier point, c'est qu'effectivement, il y a une vraie nouvelle génération de DRH et c'est très bien parce qu'elle nous apporte ce qui probablement nous a manqué à nous, la génération d'avant, c'est-à-dire la capacité à être plus remuant, à prendre plus de risques, à être plus inclusif, plus intégratif. Et elle est vraiment en train de changer. La vision des politiques RH, la façon dont on travaille dans l'entreprise, je crois qu'elle a pris un peu de distance avec la doxa RH classique qu'on a pu connaître, vous savez, le HR Business Partner qui a fait beaucoup de choses pour la DRH, mais qui finalement a été une sorte de prêt-à-penser dont ils ont et dont elles ont su sortir. Je crois que ça, c'est vraiment un des points importants. Deuxième point, ce qui est important aussi, c'est qu'ils sont dans des entreprises plus petites, dans des équipes où c'est plus facile de tester, de faire du test and learn, d'essayer de nouvelles façons de travailler. Après, la vraie question, c'est, je dirais, comment vont-ils, je vais pas dire vieillir, mais grandir dans le cadre d'entreprises qui grandissent. Est-ce que la taille des entreprises va les rattraper, va les amener dans un système qui va être un système plus classique, ce qui est pas anormal non plus, parce que vous êtes obligé de mettre plus de règles quand vous êtes plus nombreux, ou est-ce qu'au contraire, ils vont réussir à maintenir une fonction RH extrêmement plastique dans une entreprise beaucoup plus large? Ça va, je crois, pour eux être, et pour elles, être une vraie question.
Et il arrive aujourd'hui à avoir cette place stratégique au sein des entreprises. On s'est moqué des DRH sur les places des strapontins, dans les assemblées générales.
Je vais être très direct, qui prennent ces risques. Moi, j'ai toujours dit à mes petits camarades, take your risk. Et à un moment donné, si on n'est pas d'accord avec la vision qu'a l'entreprise de la, c'est pas de la DRH, mais de la gestion des équipes, parce que c'est avant tout ça qui est important, faut aller bosser ailleurs, faut aller prendre d'autres risques dans une autre entreprise. Et ça, je crois que c'est vraiment un des éléments. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, pas mal de DRH qui bougent d'entreprise en entreprise parce qu'ils vont chercher de nouvelles aventures. Ils vont chercher de nouveaux risques, ils vont chercher de nouveaux contextes. Et ça, moi, je crois que c'est un élément important. Il y a un sujet aussi qui a modifié la perception qu'on a vis-à-vis des DRH, c'est qu'il y a beaucoup de non-DRH qui sont rentrés dans la fonction. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas le débat, mais je crois que ça a apporté un autre regard que le regard classique qui était peut-être un peu trop tourné sur le légal, le syndicat, le classique, les processus classiques qu'on pouvait mettre en place. Et moi, ce que je trouve vraiment passionnant aujourd'hui, c'est qu'on est un peu en train de déconstruire les deux, trois grandes théories sur le sujet. Enfin, il y a un monsieur qui a fait beaucoup pour la fonction RH qui s'appelle Dave Ulrich, qui était le grand penseur des années 80. On est en train de déconstruire tout ça, on est en train de retravailler sur tout ça. Je crois que c'est un vrai beau moment. Puis quand même, le Covid a montré que les DRH étaient utiles.
Ah bah oui, c'est vrai.
Faut pas l'oublier.
Avant, on faisait des chroniques sur les fonctions support. Tiens, si on supprimait tous les DRH,
aujourd'hui,
personne ne parle de ça.
Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Tout le monde a compris que les RH sont montés au créneau, ont réussi à maintenir très souvent le climat social, l'engagement des salariés dans l'entreprise. Ils ont été présents en permanence, du confinement au reconfinement, au déconfinement et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je crois que tout ce qui s'est passé là, au-delà de l'image qu'ont les salariés des DRH aujourd'hui, je pense, qui est modifié. Tout ce que ça a permis en termes de travail hybride, en termes de digitalisation, il ne faut surtout pas le perdre. Il faut vraiment capitaliser là-dessus.
Alors justement, vous dites en France, on a une capacité d'innovation dans les RH. C'est quoi aujourd'hui pour vous? C'est retravailler le code du travail, repenser le travail hybride, c'est quoi l'innovation RH?
Ça, retravailler le code du travail, le code du travail, il est ce qu'il est. On travaille avec. N'oubliez pas quand même une chose, en particulier dans les grandes entreprises, par le dialogue social et par accord majoritaire, on fait à peu près ce qu'on veut. En matière d'organisation du travail, on peut véritablement modifier complètement la donne.
Donc, on peut faire du sur-mesure quasiment avec l'activité.
On peut vraiment faire du sur-mesure. Et ça, je crois que c'est aussi un point important. Il faut que les dirigeants l'entendent, qu'ils travaillent avec leur DRH pour faire du sur-mesure. Et c'est pas simplement on ne peut pas parce que blablabla.
Mais il faut avoir un dialogue dans l'entreprise.
Mais c'est évident. Et ce dialogue, il faut l'avoir quand tout va bien. On va pas simplement demander du dialogue quand c'est chaud et quand la situation est compliquée. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le travail hybride. C'est quoi travailler aujourd'hui dans une entreprise quand pour un certain nombre de DRH ou un certain nombre de salariés, ils ont mis presque un an à venir dans leur bureau. Comment je m'intègre? Quels sont les codes de l'entreprise? Qu'est-ce qui est l'ADN de l'entreprise? Honnêtement, ça ne doit pas être facile d'être DRH aujourd'hui en rentrant dans une entreprise quand vous êtes allé dans votre bureau simplement 3 mois, 4 mois, 6 mois après avoir été embauché. Évidemment, on est en train de sortir de la crise, mais on voit bien que c'est des sujets qu'on n'aurait jamais mis à l'agenda il y a quelques années et qui aujourd'hui sont devenus des sujets, je ne vais pas dire classiques.
Mais là, ça repose la question de la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des DRH qui se révèlent être très compétents pour la gestion du travail hybride et puis il y a des gens qui n'étaient pas du tout prêts à ça et qui en fait n'y arrivent pas.
Mais c'est vrai.
Et aujourd'hui, la compétence d'un DRH, du coup, c'est quoi pour vous?
Je pense que c'est la capacité à assembler justement des compétences différentes. C'est à oser aller chercher des compétences chez les uns et chez les autres et être capable de les assembler, de donner du sens à tout ça. C'est pas facile le travail hybride. Vous rencontrez 3 personnes, ils vous donnent 3 définitions différentes et si vous mettez une sorte d'échelle de j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, vous aurez systématiquement des situations différentes. Parce que ma situation professionnelle est ce qu'elle est, ma situation personnelle est ce qu'elle est, et entre les deux, je ne sais pas bien faire. Ou au contraire, c'est génial. Ou au contraire, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien au bureau, parce qu'on peut travailler avec les copains.
Ça veut dire qu'il faut que le DRH descende un peu de son îlot de verre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse les gens. Vous me dites, j'espère, aujourd'hui, un des reproches qu'on fait au DRH, vraiment à celui qui est en haut de la fonction, c'est de dire, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, elle ne m'a jamais parlé.
Alors ça, je pense que c'est aussi un des éléments qui a été complètement modifié. Le nombre de Teams, le nombre de Zoom, le nombre de WebEx, tout ce que vous voulez, de réunions qui ont été faites de cette façon-là, a permis une proximité absolue entre un DRH, mais n'importe quel manager, n'importe quel salarié, et des salariés qui sont à des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres de lui. Alors que jusqu'à présent, c'est vrai, il avait tendance à voir ceux qui étaient dans le même immeuble, dans la même tour, et pas forcément ceux qui étaient très loin. Et je crois que si on est capable, et si les DRH, mais ce que je dis des DRH est vrai de toutes les fonctions, si les DRH sont capables de maintenir ce lien, même si c'est un lien à distance, ils vont être capables de créer de l'émotion avec des gens qui sont très loin d'eux. Et ça, je crois que c'est vraiment un capital confiance qui est absolument unique. C'est pas simplement la note de service, le papier, la note d'organisation. Il faut qu'ils arrivent à incarner cette proximité. Et je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué.
C'est de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est ça que vous conseillez aujourd'hui au DRH puisque vous faites un travail de consultant désormais?
Oui, mais tout
ça s'apprend, ça se change.
On peut se changer, mais il faut aussi savoir se protéger. Ayez conscience aussi, là je vais vraiment plaider pour mes amis des RH, c'est un métier extrêmement exigeant. Parce que comme vous le disiez, on est en contact avec à peu près, si on fait son boulot, on est en contact avec à peu près la totalité des salariés, quels qu'ils soient. En bonne forme, qu'ils soient en mauvaise forme, ils ont des questions à poser. Et il faut aussi que le DRH sache se protéger et sache avoir ces 2 centimètres au-dessus du sol malgré tout, qui font que toute la misère du monde, ils ne la prennent pas sur leurs épaules, tout en étant dans l'action et en trouvant des solutions en permanence pour les uns et pour les autres.
Merci beaucoup Philippe Vivien, directeur général d'Alixio, d'être venu nous voir dans Happy Boulot Le Mag. On va parler des carrières, des femmes, des hommes et des couples.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. Better together.
Réussir sa vie de couple et sa carrière, ce n'est pas si simple. On est avec Anne-Cécile Sarfati, auteure de Nous réussirons ensemble. Bonjour, c'est pas si simple, mais c'est possible. Il y a des clés, on va en parler ensemble. Vous êtes dirigeante d'une société de conseil Actuali. Vous êtes ancienne rédactrice en chef du magazine Elle. À quel moment vous avez décidé de vous intéresser aux problèmes d'argent?
Alors, il n'y a pas que l'argent dans ce livre. Il y a toute la question de la conciliation du couple
de la famille et de la carrière, de l'homme comme de la femme. Donc j'ai créé les forums Elle Active qui étaient là pour promouvoir le travail des femmes, justement pour aider les femmes à atteindre l'égalité professionnelle avec les hommes. Et tout ce travail que j'ai fait me ramenait toujours à l'intime en fait, puisque les inégalités professionnelles, à la fois de revenus et de carrière et voilà de place occupée dans l'entreprise et dans la société en général, ramènent à l'intime et ramènent aux inégalités domestiques. Et donc on ne fera pas l'égalité professionnelle sans faire l'égalité dans le couple en fait.
Sauf que l'intime, quand on est au travail, c'est tout ce qu'on essaye de cacher justement.
Oui, alors c'est peut-être qu'on essaye de le cacher et oui, il s'agit pas d'aller étaler forcément toute son intimité dans l'entreprise. Après, je pense que l'entreprise doit faire des efforts en termes de parentalité, mais il y a pas que l'entreprise, il y a déjà les services publics. Je trouve que on nous met beaucoup de bâtons dans les roues, que la société n'est pas du tout encore suffisamment adaptée au fait que les femmes travaillent autant que les hommes et en tout cas ont la même ambition puisqu'elles sont aujourd'hui, je vous le rappelle, plus diplômées que les hommes. Donc si elles font des études supérieures avec autant de réussite, c'est bien qu'elles ont une certaine ambition de départ. Et en fait, il n'y a pas encore une place en crèche par enfant de moins de 3 ans. Il y a encore des vieux réflexes dans l'éducation nationale pour appeler seulement la mère, voire la grand-mère, voire la tante, mais on n'appelle pas le père quand l'enfant a un problème. Il y a encore énormément de résistance socio-culturelle à l'égalité professionnelle et au fait que les femmes travaillent à égalité avec les hommes, en tout cas elles ont la même ambition.
Et le gros sujet dans votre livre donc, c'est le couple avec des enfants en bas âge. Est-ce que c'est possible pendant cette période de tension, alors je ne sais pas dans bas âge, si on va jusqu'à 15 ou 16 ans, justement de réussir ensemble, de faire carrière en même temps? On est à un moment assez charnière dans la carrière des femmes, 30 ans à 45 ans, le moment où on se déploie, on s'impose.
Oui, et le moment d'ailleurs où les entreprises mettent des critères de repérage des hauts potentiels pour promouvoir les femmes et pour...
Donc il ne faut pas se rater.
Oui, il y a des sentiments qu'il ne faut pas se rater, mais je vous rappelle que quand même la vie professionnelle s'allonge, que la carrière s'allonge, qu'on va devoir travailler plus longtemps. Et heureusement, les entreprises sont en train de faire un peu leur révolution là-dessus. Pas toutes, bien sûr. Il y a encore du retard. Peut-être que c'est plutôt les grands groupes qui évoluent là-dessus. Mais en tout cas, on recule le repérage, l'âge de repérage des hauts potentiels et des managers potentiels à plus tard. Parce que justement, on sait que il y a la question de la construction de la famille au même moment et que ça plombe de fait les femmes. Mais vous savez, les hommes aussi ont envie d'évoluer sur ces sujets-là. Ils ont envie aussi de s'occuper davantage de leurs enfants. Ils ont encore beaucoup d'efforts et de progrès à faire en termes de charges plutôt domestiques, c'est-à-dire des trucs pas très sympa, contrairement à s'occuper de ses enfants, voilà, le côté gestion.
Il n'y a pas que des jeux,
il y a aussi faire tourner les machines et prévoir le sac de piscine dans l'emploi du temps du gamin qui va à la piscine ce jour-là. Donc tout ça, c'est une charge mentale énorme, une charge opérationnelle énorme. Et les hommes doivent faire des progrès encore là-dessus. Si on a du mal, nous les femmes, c'est aussi parce qu'on se prend ça à 80%.
Il y a encore des progrès à faire, je suis d'accord avec vous, mais dans les cadres sup de grandes villes, il y a eu déjà chez les hommes quand même des choses qui ont évolué, des couples qui sont à parité, mais même comme ça,
oui, parce qu'en
au
fait,
moindre
la parité,
problème,
oui.
Ça tout s'écroule, quoi. Au moins l'enfant malade, ça devient très compliqué.
Alors, ça devient compliqué, mais aussi, je parle d'argent. Là, on revient à la question de l'argent. Il y a un chapitre sur l'argent qui est important dans mon livre, parce que dans 75% des couples, l'homme gagne plus. Donc, tous les arbitrages qui doivent se faire sont souvent faits en la défaveur de la femme et en la faveur de l'homme. Pas forcément parce qu'on choisit l'homme versus la femme, mais parce que sur le plan de l'économie générale de la famille, c'est plus profitable à la famille de soutenir la carrière de l'homme qui gagne plus. Bon, mais ça, ça va bouger, ça va évoluer, enfin j'y crois.
Mais est-ce qu'on peut être deux à fond dans sa carrière en même temps, ou est-ce qu'il faut faire carrière chacun son tour?
Une des règles de fonctionnement des couples qui y arrivent, une des clés, c'est en effet d'essayer de pas avoir au même moment une grosse promotion qui fait que vous allez devoir vous investir davantage dans votre travail pour vous adapter à votre nouveau poste au même moment. En général, ce qui fonctionne bien dans ces couples, c'est quand l'un peut se reposer un peu sur l'autre prendre en charge davantage la maison et les enfants pendant que l'autre accélère dans son travail. Alors bien sûr, tout ça est un peu théorique parce qu'il y a parfois des trains qui passent et on se dit repasseront pas. Bon, alors
c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où peut-être parfois il y a des choses extraordinaires qui passent et qui se représenteront pas. Dans ces cas-là, il faut, vous parliez de couples qui vivent dans des villes, qui ont quand même un certain niveau de diplôme, de revenus, etc. Il faut staffer à mort et il faut aider, il faut déléguer à la famille, mais aussi à des services.
Mais staffer à mort, c'est le début de la culpabilité, ça.
Non, c'est pas le début. Je pense qu'elle commence même avant de staffer, la culpabilité maternelle. Ça, je pense que
à la naissance, c'est toujours de la faute de la mère.
C'est toujours de la faute de la mère. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on vous en voudra. Donc, c'est pas la peine de.
Non, mais c'est important ce que vous dites.
Il y a beaucoup de témoignages.
Aider,
mais
faites-vous aider. Pouvez tout faire.
Non, mais là, il faut se faire aider. Il faut apprendre un peu à déléguer. Et la délégation, comme dans le monde du travail, n'implique pas l'abandon. La délégation n'exclut pas le contrôle et n'exclut pas, l'accompagnement non plus.
Et la délégation totale. C'est la femme qui travaille et qui justement veut tout faire parce qu'elle ne peut pas être celle qui abandonne son enfant.
Elle doit lâcher aussi un peu le perfectionnisme maternel et familial.
On peut aller à l'école avec des tâches.
On peut aller à l'école avec des chaussettes dépareillées parce que c'est le papa peut-être parfois qui commet l'erreur d'envoyer l'enfant avec des chaussettes dépareillées. Les femmes qui s'en sortent sont celles qui lâchent là-dessus et elles ont raison. Elles lâchent sur le perfectionnisme maternel qui pourrit la vie de tout le monde, qui ne fait pas des meilleurs enfants, je peux vous dire, qui ne sont pas la garantie que vos enfants seront plus réussiront mieux et feront des meilleures études et réussiront plus. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Heureusement, la vie est un peu plus compliquée que ça. Et donc, les couples qui y arrivent sont des couples dont les femmes lâchent un peu cette espèce de perfectionnisme absurde et qui sont aussi dans un soutien réciproque et mutuel et dans une fierté mutuelle et réciproque parce qu'ils savent que ils préfèrent en fait partager des choses. Ils reviennent au couple, si vous voulez. Parce que le danger du couple à double carrière, c'est qu'on s'occupe des enfants quand ils sont tout petits, on passe énormément de temps à ça, on s'occupe de sa carrière, mais on s'occupe pas beaucoup de son couple. Or, qu'est-ce qui va rester à la fin ? Le couple en général, si ça a tenu. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup recueilli de témoignages de couples qui n'ont pas explosé, qui sont passés par des crises, des difficultés, et pour un peu recenser les clés qui font qu'ils ne sont pas tombés dans des pièges et qu'ils n'ont pas été totalement agis par les freins de la société.
Vous qui avez justement fondé ces forums Elle Active, comment vous voyez évoluer la place de la femme dans l'entreprise ? Est-ce que vous êtes optimiste ?
Oui, moi je suis très optimiste. Je sais que c'est long, mais je suis très optimiste parce que je peux vous dire, j'ai commencé à travailler sur ce sujet il y a 25 ans, mais personne, tout le monde s'en fichait de ce sujet, mais tout le monde, les femmes les premières d'ailleurs, les femmes qui faisaient des carrières en entreprise, commençaient à s'organiser un peu en réseau, mais enfin elles osaient à peine contredire leur patron, lancer des programmes, mon Dieu, enfin voilà, tout ça était très timoré. Aujourd'hui, il y a tout un, vraiment, elles étaient contre au départ d'ailleurs, les quotas dans les conseils d'administration, elles ont bien vu que par la méthode douce on n'y arrivait pas, donc elles étaient toutes pour 10 ans
ça,
plus tard.
Ça, c'est le discours de Christine Lagarde. J'étais contre, mais je me suis aperçue que j'avais pas le choix.
Mais bien sûr, et elles sont toutes comme ça, je peux vous dire. Et aujourd'hui, je vois bien quand même que ça progresse, même si il y a des pièges, même si il faut tenir dans le couple, en sachant que c'est quand même plus facile à deux. Et puis que un couple qui s'est fondé sur une égalité intellectuelle, professionnelle, et puis quand même de l'amour, parce que c'est, revenons quand même à la base de ce qu'est un couple. Et en général, devrait pouvoir tenir en lisant mon livre.
Merci beaucoup Anne-Cécile Sarfati-Hofer, auteure de Nous réussirons ensemble. C'est aux éditions Albin Michel. On va parler de bien-être au travail et d'un nouveau label.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Vous connaissez les nombreux labels sur le bien-être au travail qui existent sur le marché, mais est-ce que vous connaissez Human ? On est avec Aurélien Herkel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé un nouveau label européen pour le bien-être au travail. Il n'y a pas déjà de quoi faire sur le marché ?
Alors, il y a de quoi faire. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de labels sont axés sur la RSE. Or, 99,9% de la RSE est pris sous le prisme de l'écologie et pas forcément du capital humain. Or, je pense que la compétitivité de nos entreprises va résider dans le capital humain et pas forcément sur l'écologie ou le digital. Et donc, j'ai créé une méthodologie avec le label Human, où là, on n'est pas dans le cosmétique, on n'est pas dans le bonheur au travail, on n'est pas dans les questionnaires à remplir. Et il y a toute une méthodologie qui va être auditée par un auditeur externe qui s'appelle KPMG Grand Est pour le moment, et qui va permettre aux entreprises de mesurer leur impact en tant de relations humaines, parce qu'on parle beaucoup des ressources humaines, mais ce qui ne fonctionne pas en entreprise, ce sont surtout les relations humaines. Comment on recrée du contact entre le management, les employés, dans une perspective d'avenir au service de l'institution.
Alors, il y a quoi dans votre label s'il n'y a pas de questionnaire ?
Alors, par exemple, le premier principe du label, si l'entreprise choisit choisi de prendre le principe là. Il y a 10 principes. Elle va en prendre 5. C'est notamment connaître ses équipes. Il est fondamental que le PDG puisse passer une semaine par an dans un département de son choix à faire le travail des salariés. Il y a une trop grande défiance entre ceux qui pensent et ceux qui font. Et des fois, lorsqu'il n'y a pas de défiance de la part de ceux qui pensent, il y a de la défiance de la part de ceux qui font.
Et il y va, c'est pas comme dans l'émission sur M6, Patron Incognito, il va passer une semaine avec ses équipes. Pourquoi le PDG et pas tout le comité exécutif, si ça marche pour toute la direction?
Alors, le label est évolutif.
Pour l'instant, on commence par le patron.
On commence par le patron, et c'est déjà montrer l'exemple, parce qu'on peut réintégrer de la fierté, de la dignité, de la valorisation, et surtout de l'émancipation dans l'entreprise. Ce sont des vieux mots qu'on a oubliés, et notamment qu'on essaie de remplacer par des mots comme bienveillance, comme gentillesse. Or, le management n'est pas fait pour être bienveillant. Management n'est pas fait pour être gentil, ce ne sont pas des gentils organisateurs du Club Med.
Non, mais il n'est pas obligé d'être méchant et...
On est bien d'accord. Mais le côté méchant, on le comprend, mais là on va totalement à l'inverse. Il y a un mot qu'on a oublié dans l'entreprise, c'est le mot exigence. Moi, j'ai bâti ma carrière sans diplôme à l'étranger, grâce à des managers qui ont été exigeants. J'ai été exigeant avec moi-même et j'ai pu atteindre mes objectifs. Donc il faut remettre la valeur travail et l'exigence pour soi-même au sein d'entreprise, tant pour les managers que pour les employés.
Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a changé complètement la balance? Il y a trop d'exigences des salariés vis-à-vis des managers et à l'inverse, trop de bienveillance?
Je pense que nous vivons dans une société d'infantilisation. Nous devons revenir à une société de responsabilisation. Oui, je vois des entreprises qui se plient aux attentes de futurs employés parce qu'on le voit.
On fait du cas par cas.
On fait du cas par cas. Or, je pense que déjà, avant de recevoir, il faut donner dans la vie. Donc avant d'attendre qu'on ait des toboggans et des baby-foot, il faut déjà qu'on puisse travailler. La valeur travail, elle est fondamentale en termes de compétitivité pour nos entreprises à l'échelle mondiale.
Donc quand vous allez auditer les entreprises, donc il y a cette idée que le patron ait passé une semaine avec ses salariés, il y a quoi d'autre? Vous regardez quoi dans le fonctionnement de l'entreprise?
Alors par exemple, le deuxième principe, c'est que chaque manager qui aura minimum 3 à 5 personnes qui travaillent pour lui ou pour elle, devra être évalué chaque année sur ses capacités humaines à gérer du personnel. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, dans mon expérience professionnelle, plus de 20 ans à l'étranger, j'avais toujours ces annual review, comme on dit, ces performances qu'on voyait pour un bonus en fin d'année.
Ouais.
Mais moi, on m'a jamais demandé d'évaluer mon manager. Or, je pense qu'en France actuellement, et pas qu'en France, mais on a substitué le rôle du manager à un rôle d'expert. Or, avoir un diplôme, être expert, ne veut pas forcément dire être un bon manager. Et je crois qu'on peut l'établir, notamment sur un système où on peut évaluer le taux d'absentéisme dans chaque département, chaque année.
Et aussi la rotation.
Et la rotation, bien entendu, ça joue. Et on peut s'apercevoir aussi.
Ça, c'est des KPI. Enfin, on voit bien.
Ce sont des KPI justes et concrets. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a de très bons managers, mais des employés qui ne veulent pas le travailler non plus. Faut avoir de tabou là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est un travail d'équipe. Comme je disais, le slogan de Human, le talent est important, la passion primordiale, l'entourage crucial.
Le plus gros reproche qu'on fait au label de bien-être, c'est d'être payant, de vendre derrière du service, oui, à l'entreprise. Ça fonctionne comment, Human?
Alors, le label Human, lorsqu'une entreprise, différent des autres labels, attention, qui ont certainement leur valeur ajoutée, une entreprise qui demande le label Human va mettre en place 5 et 10 principes. Ils seront audités par KPMG Grand Est pour le moment, entre 6 mois et 1 an, suivant la maturité et le nombre de salariés. Il n'y a aucune transaction financière entre l'auditeur et l'audité, et Human n'a aucune influence sur l'obtention ou non du label pour l'entreprise qui a demandé le label.
Donc vous faites quoi? Vous faites de l'apport pour KPMG et...
Je fais de l'apport pour KPMG, et en même temps, c'est une méthodologie qui fonctionne. Notamment, il y a une entreprise qui est la première entreprise à s'être engagée.
Vous avez un premier client.
Un premier client, exactement.
Enfin, un sous-client, du coup.
C'est un client qui s'appelle Vaugelis, qui est un bailleur, ouais, social du Grand Est, qui était déjà un peu Human avant d'être Human, on va dire ça comme ça. Et puis, les premiers audits vont avoir lieu en décembre, et ça marche très très bien. Il y a le retour est fabuleux de la part du management, notamment du directeur général, qui a fait du vie ma vie aussi, mais de la part des salariés, il y a une fierté, il y a une dignité qui s'est installée, qui était déjà là, mais qui est formalisée sous forme de label maintenant.
Est-ce que vous pensez qu'à un moment, les talents, les salariés qui postuleront à une offre d'emploi diront peut-être pas est-ce que vous avez le temps pour Human, même si je vous le souhaite, mais en tout cas, qui vont demander le taux de rotation, qui est quand même très important, très intéressant comme indicateur.
C'est fondamental pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les investisseurs. Je pense qu'à l'avenir, les investisseurs vont regarder le taux d'absentéisme, le taux de rotation, le taux d'attractivité et l'augmentation des bénéfices pour une entreprise saine. Et notamment pour attirer les talents, parce qu'il y a encore la définition de talent. Hein, qu'est-ce qu'un talent? On va dire ça comme ça. Je pose la question à beaucoup de DRH. La réponse est souvent le silence.
Non, la réponse de tous les DRH, c'est de dire c'est quelqu'un qui est curieux.
Oui, on va dire ça comme
envie.
Ça.
Quelqu'un qui a envie, ça marche.
Alors, pour d'autres, oui, mais d'accord, on va même motiver. Mais je pose la question, avant d'attirer des personnes motivées, est-ce que vous êtes motivante en tant qu'entreprise?
Eh bien, écoutez, on l'espère. Merci beaucoup Aurélien Herkel d'être venu nous voir. Vous avez écrit Human, promesse d'une croissance réussie. C'est chez Renaissance du livre et vous créez donc ce nouveau label européen sur le bien-être. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.